Nous allons aujourd'hui parler de la vaccination. Vous savez, il y a un grand débat, une consultation citoyenne qui est ouverte sur le sujet.
Mesdames, messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
La vaccination, combats et débats.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les vaccinations, depuis l'armée, je ne sais pas ce que c'est.
Ah, c'est tout refait, absolument tout refait. Cette année.
Non, jamais, j'ai aucun vaccin, monsieur. Parce que je pense qu'on doit faire sa propre immunité soi-même. Et mes enfants n'ont aucun vaccin non plus.
Malgré toutes les mises en garde que l'on peut entendre à l'heure actuelle, je dois dire que je fais partie de ces bons Français qui font pas attention à ce genre de choses. Je le fais pour mon chien, ce qui est quand même paradoxal.
Et pourtant, longtemps, l'aventure de la vaccination est apparue comme une des facettes du récit national. Le pugnace Pasteur, dans les années suivant la défaite de 1870, avait contribué à relever la fierté française et de son institut qui garde un statut de fondation sans but lucratif. Le monde attend toujours qu'il donne le branle dans la recherche. Mais on ne peut plus parler aujourd'hui de la vaccination au superlatif. Dans des domaines très importants et très attendus, du paludisme au sida, elle n'a pas abouti à des résultats très efficaces. Et dans le pays de Pasteur, elle est en but à un discours de défiance, voire d'hostilité qui se fait de plus en plus entendre. Chacun a eu vent des questions qui se répandent. Pourquoi tant de propositions de vaccins au-delà des obligations classiques? Pourquoi des vaccins à ce point coûteux, si polyvalents, alors que le bon vieux vaccin trivalent pourrait suffire? Pourquoi ce type d'adjuvant dans la composition, etc., etc. L'affaire est autrement complexe, si c'est possible, que Notre-Dame-des-Landes, et pourtant ne va pas organiser un référendum. Mais la puissance publique ne peut plus s'avancer seule et dire « ce calendrier vaccinal, c'est mon choix, il sera une obligation ». Aussi lance-t-elle une vaste consultation citoyenne qui doit durer près d'une année et qui porte notamment sur l'obligation vaccinale et à laquelle nous versons notre très modeste contribution historique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Anne-Marie Moulin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez beaucoup de titres pour participer modestement à cette consultation citoyenne, médecin et historienne. Ça n'est pas si fréquent. Vous avez piloté un grand livre collectif sur le sujet. L'aventure de la vaccination, c'était chez Fayard. On pourrait peut-être d'ailleurs recommander à Fayard, faites une demande pressante, une nouvelle édition. Parce qu'il faut renouveler quelques-unes des contributions, mais c'est un livre qui, déjà, il y a 20 ans, posait beaucoup des questions qui sont celles d'aujourd'hui. J'ajoute, Anne-Marie Moulin, et c'est peut-être d'importance, que vous avez une expérience à la fois française et une expérience des pays en développement, parce que vous avez longtemps travaillé en Égypte. Tout ça est exact.
Tout ça est exact.
Bon, je vous vois muette, c'est pas votre genre pourtant. Peut-être si je vous lance sur cette idée, avant qu'on ne parle de la vaccination au XIXe siècle, c'est bien de faire une consultation citoyenne, encore faut-il qu'elle ne regarde pas seulement les 5 dernières années, qu'elle ne soit pas présentiste, qu'elle soit un peu historienne.
Je pense que c'est important et que le projet de notre ministre de la Santé a un peu sous-estimé le poids de cette histoire. Les vaccins ont une aura. Les vaccins sont en ce moment en train d'être discutés et de revenir sur une très longue tradition. Une tradition où les États ont joué un rôle considérable. La vaccination a été d'abord saisie par les États comme un outil de santé publique, leur permettant d'avoir une population nombreuse et en bonne santé. On remonte dans l'histoire ?
On remonte dans l'histoire. Et alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avant la vaccination. Il faut être très précis sur les termes, avec la variolisation. Alors, quand, par exemple, on variolise à la cour de France le roi Louis XV, c'est dans les années 1770, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on lui fait ? C'est un grand danger, semble-t-il, qu'il fait courir aux enfants royaux en les variolisant.
C'est quelque chose effectivement de dangereux et quelque chose qui est aisé à comprendre empiriquement sans le secours de la science moderne. On a constaté que les personnes qui avaient eu une variole au cours de l'épidémie suivante étaient protégées. De là l'idée de prendre un petit peu de pus de la variole dans une pustule, un bouton, et de le transférer sur un enfant, obtenant en général l'éruption de quelques pustules et une protection, on ne dit pas encore immunité, solide lors de l'épidémie qui surviendra. Mais cette pratique comporte aussi quelques dangers, de façon imprévisible. Parfois, c'est une vraie variole et une variole grave qui va emporter l'enfant. D'où les dilemmes moraux des parents et des dirigeants dès cette époque.
Alors Louis XV, il fait vacciner, pardon, qu'est-ce que c'est que ce mot que j'ai utilisé? Il fait inoculer les enfants royaux. Il se fait pas inoculer lui-même parce qu'il pense qu'il a déjà eu la variole et puis il va mourir finalement de la variole parce que c'est pas la variole qu'il avait attrapée dans sa jeunesse. Alors est-ce que le mot vaccination, il faut l'utiliser pour l'étape suivante, l'étape d'Édouard Jenner? C'est pas tout à fait sûr. Nous sommes en Angleterre en 1796 avec un modeste praticien qui, lui, va pratiquer une inoculation de la version animale et banale, la variole de la vache.
Le médecin de campagne Jenner a entrepris de lutter contre la variole. Il a remarqué que les vaches, malades du cowpox, protègent les individus qui s'occupent d'elles. Vachers et vachères ont rarement la variole. Jenner devine alors les extraordinaires possibilités que ce caprice de la nature présente pour l'humanité entière. En mai 1796, Jenner décide une première expérimentation. La jeune vachère Sarah Nelmes a sur le dos de la main droite un gros bouton pustuleux. Jenner inocule un extrait de cette pustule en deux endroits du bras d'un garçon de 8 ans, James Phipps. Jenner attend. Le septième jour a lieu une réaction. Douleur, petits frissons qui disparaissent le lendemain. James Phipps échappera-t-il à la variole?
Ah, c'est la question, Anne-Marie Moulin. Oui, il a échappé.
Je pense. À dire vrai, je n'en sais rien.
Parce qu'il est beaucoup moins bien documenté que son lointain successeur, Pasteur, le camarade docteur Édouard Jenner. On s'est aperçu quand même que des personnes à qui avait été inoculée la version animale de la variole, 10 ans ou 20 ans plus tard, pouvaient la contracter, même si apparemment ils avaient été préservés dans un premier temps, d'où l'idée de la répétition qui va venir dès l'époque de Jenner.
Ça a été quelque chose de très difficile à faire admettre. Le modèle de la protection par la vaccine, c'était précisément l'immunisation, la protection que procure la maladie. Avouer que le vaccin était au fond de moins bonne qualité, la vaccine ne procurait pas une immunité pour toute la vie. Il fallait donc procéder à une revaccine. Et ça, de façon générale, le public le supportait mal et ne le comprenait pas du tout.
Alors le public comprend-il d'ailleurs ? L'application de la répétition, elle naît dans la conscience des Anglais, des Écossais, à partir des années 1818-1820. Mais quand la vaccine est introduite, par exemple, sur le territoire français, sur le continent, au moment du Concordat, grosso modo, en 1801, comment les réactions s'organisent-elles? Je parle à dessein d'ailleurs du Concordat, parce que il y a deux acteurs importants dans l'aventure de la vaccination qui sont là, présents, c'est Napoléon Bonaparte, et c'est le clergé.
Tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est que en pleine guerre avec l'Angleterre, Bonaparte va protéger la vaccine. Il est partie intégrante dans une négociation pour libérer des personnes qui sont prisonnières, qui ont appris à Londres à vacciner. Il protège la vaccine, les échantillons de vaccine, quand ils cheminent à travers le blocus. Bref, il intervient massivement et c'est là quelque chose qui va, je pense, donner la physionomie historique de la vaccination en France, à savoir le soutien des pouvoirs publics.
Et le clergé, lui? Parce que les interprétations des historiens sont très divergentes. Léonard, grand historien de la médecine, dit « Oh là là, il y a eu beaucoup de résistance des soutanes et des cornettes ». Et Jean-Noël Birabel, grand historien de la médecine, aussi dit « Non, ça s'est bien passé ».
Oh, ça n'est pas aussi simple que cela. De façon générale, le clergé est à la botte du pouvoir à cette époque. Et le message de la vaccine, il est transféré à la chair. Ils ont intérêt à suivre la politique. Mais le débat du clergé, le débat religieux sur la permission donnée pour interrompre le cours de la nature et plus généralement le cours du destin voulu par Dieu, c'est un problème qui s'est posé à cette époque, qui s'était posé pour l'inoculation et qui se pose toujours aujourd'hui puisqu'il y a des pasteurs, pour certains d'entre eux célèbres, Paul II ou Paul III, c'est pas le pape, qui protestent en disant qu'on n'a pas le droit d'interférer avec les destins et les décrets de la Providence.
Oui, le débat sur ce point, on le sait, est encore actuel et les médecins, face aux témoins de Jéhovah, le vivent quotidiennement, par exemple. La grande étape suivante, bien sûr, cocorico, c'est Pasteur qui découvre la microbiologie. Voici un récit, finalement, assez fidèle peut-être, bien que télévisé, de ses positions dans un téléfilm de Luc Béraud, avec dans le rôle de Pasteur Bernard Fresson. Il évoque le personnage de son principal adversaire, Peter, à qui il reproche d'être un dogmaticien, alors que lui est un praticien.
Jamais l'action d'un microbe n'a été plus flagrante.
Le docteur Peter, il n'y croit pas beaucoup à vos microbes.
Ah, Peter, la génération spontanée. Il n'y a aucune circonstance connue aujourd'hui dans laquelle on puisse affirmer que des êtres microscopiques sont venus au monde sans germes, sans parents semblables à eux. La vie seule engendre la vie. Peter est leur porte-drapeau, mais ils sont légion. Ceux qui pensent que les vers naissent spontanément du fumier et qui ne parlent que d'humeur, de tempérament, de terrain. Ah, le terrain.
Vous pensez donc que dans les maladies infectieuses, le terrain ne joue aucun rôle ?
Bien sûr que si. Mais vous savez, moi je suis d'Arbois, autant dire de la campagne. Et j'ai appris que pour qu'une plante pousse, quel que soit le terrain, il faut bien qu'une graine ait été déposée là par un paysan.
J'ai appris l'expérience, dit Pasteur, l'expérience plutôt que toutes les théories. Et l'idée, c'est de isoler les germes pathogènes, de les modifier par des cultures expérimentales, et la modification peut passer par l'atténuation. Et il va, nous dit l'idéologie pastorienne, de triomphe en triomphe, le choléra des poules, le charbon du mouton, la foule des ruraux éleveurs l'attend dans les gares, jusqu'à ce qu'il... Allez, j'ose le mot, je sens que vous n'allez pas être content du tout, jusqu'à ce qu'il guérisse, bien sûr, le petit berger Mester de la rage.
Non, pourquoi pas?
Il n'a pas guéri de la rage.
Il est intervenu, et c'est très curieux de voir que ce premier vaccin populaire est
1885.
En fait, il s'éloigne du prototype et de l'idée que l'on se fait aujourd'hui du vaccin, à savoir qu'il intervient alors que la personne est déjà supposée infectée par le microbe. Normalement, le petit Meister porte déjà en lui le poison de la rage qui va l'emporter.
Puisqu'il a été mordu par un chien dont les dents étaient acérées.
C'est à la fois une prévention et un traitement, ce qui est très difficile à comprendre. Mais peu importe, c'est cette adhésion populaire qui effectivement va déferler sous forme d'une souscription qui réunit de la droite à la gauche toute la France, unie pour le progrès et aussi contre l'Allemagne, quelque part. Nous lui damons le pion. Et le coup de génie, c'est un coup de génie de pub de la part de Pasteur. En effet, avant même ce fameux vaccin contre la rage, il a inventé le mot vaccin. Vous-même, vous avez fait un lapsus tout à l'heure à propos de l'inoculation. Il a inventé le mot vaccin en désignant comme vaccin les virus, entendons poison, atténués, que l'on allait pouvoir utiliser pour prévenir toutes les maladies idéalement.
Et puis, il installe, il n'est pas le seul, un grand climat hygiéniste dans la France de son temps. La purification de l'air, le filtrage des excréments. Il y a le même débat en 1900 sur les crachoirs, par exemple, à l'extérieur. Les crachoirs de poche, est-ce qu'on peut en mettre dans son habit qu'autour des cendriers à l'extérieur aujourd'hui?
Le lavage des mains. Pasteur, paraît-il, ne serrait pas la main. Mais cette hygiénisation, la stérilisation aussi dans les salles d'opération, je crois que ce qu'il faut restituer, parce que ça a marqué des générations jusqu'à aujourd'hui, c'est le grand élan qui amenait à penser que toutes les maladies allaient être maîtrisées et peut-être même éradiquées. La fameuse statue de Pasteur, qui est place de Fontenoy. Vous avez le buste de Pasteur en haut du monument, et en dessous, vous avez la mort qui laisse tomber sa faux. Même si cette rhétorique n'est plus très claire à la plupart des gens aujourd'hui, la mort avec sa faux, c'est quand même, le signal est clair, nous entrons dans une nouvelle ère, une ère médicale où on va se débarrasser progressivement de toutes les maladies. L'aventure vaccinale commence.
Et les médecins, de plus en plus professionnalisés, enregistrent le vaccin contre la peste, 1897, contre le choléra, un peu avant 1892, la typhoïde, 1896, le pneumocoque, 1911, allez, je m'arrête.
Le BCG.
21, contre la tuberculose, et du moins certaines de ses formes graves chez les enfants.
Aujourd'hui, le Comité national de défense contre la tuberculose ouvre dans toute la France la 18e campagne nationale du timbre antituberculeux.
Vous tous donnez quelques centimes au timbre antituberculeux. Donnez, montrez-vous généreux, c'est si doux de faire un heureux d'une victime. Oui, pour guérir ces malheureux, souscrivez à l'œuvre admirable du timbre antituberculeux créé par les cœurs charitables. Sauvez ainsi de chers poupons, car le produit de ces vignettes permettra l'application du vaccin du docteur Calmette. Songez qu'en versant peu de choses, vous rendrez robustes et sains nos petits hommes de demain. Préparez donc plus de vaillance pour notre France.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Cette campagne est axée cette année sur le thème du vaccin BCG. Bacille Calmette-Guérin.
Tout le monde connaît ce qu'est la vaccination antivariolique. La vaccine ordinaire, la vaccine qui se fait sur la peau du bras à l'aide d'une plume à vacciner. La vaccination contre la tuberculose des enfants se fait exactement de la même façon. Elle est peut-être moins offensante encore que la première, car il ne se produit au niveau de la scarification ni lésion locale et aucune réaction générale de l'organisme.
La vaccination, débats et combats, nous sommes avec le BCG, docteur Anne-Marie Moulin, au plus haut de l'aventure de la vaccination, pour reprendre le titre d'un livre dont on regrette qu'il ne soit pas réédité chez Fayard. C'est très important de parler de sous, de... Oui, d'ailleurs, il faut prendre garde à tous les mots qu'on utilise, parce que il ne faut pas mettre en cause les ressources par le don de la vaccination. Vous avez entendu le chanteur Schepfer dire acheter des timbres antituberculeux. Aujourd'hui, j'imagine que l'Institut Pasteur est très soucieux aussi de l'image qu'on donne de l'histoire de la vaccination.
Bien sûr, et c'est la politique vaccinale porte de plus une empreinte nationale qui est très forte. On évoque cette histoire qui est encore très présente dans l'esprit des Français, qui de temps en temps d'ailleurs reçoit des injections de rappel. On fait des comparaisons avec les autres pays. Le BCG, par exemple, dont vous avez entendu tout à l'heure ce chant glorificateur, est une vaccination qui, dès le début, a fait problème en raison d'une affaire, la fameuse affaire de Lübeck, où le vaccin a été mis en cause.
Qu'est-ce que c'est l'affaire de Lübeck ?
L'affaire de Lübeck, c'est le premier grand procès médical. C'est des années de 1929 à 1932. L'État de Lübeck, le Sénat de Lübeck introduit le BCG, ce qui est une grande victoire pour les Français. Et malheureusement, dans les jours qui suivent, un certain nombre d'enfants meurent d'infections tuberculeuses. À quoi étaient dus ces décès ? Il y a un long procès qui est un procès très complexe, parce que bien sûr, c'est l'Allemagne contre la France. Les troupes nazies commencent à envahir la rue et Hitler est contre la vaccination. On ne le sait pas souvent. Bref.
Il ne faut pas contrarier la nature.
Et le problème est que, en fait, on ne saura jamais exactement d'où viennent ces décès. Probablement, le vaccin a été contaminé par des bacilles virulentes de tuberculose. Mais on s'aperçoit à cette occasion qu'il y a des questions qu'on ne sait pas résoudre. Par exemple, le fait de savoir si une souche atténuée, une bactérie atténuée au laboratoire, peut, dans certaines conditions, retrouver sa virulence. On est à une époque où les connaissances génétiques sur les bactéries sont encore balbutiantes et au fond, le débat scientifique posé à Lübeck ne peut pas être résolu à cette époque.
Mais la puissance publique nationale, Anne-Marie Moulin, en même temps, elle mesure l'avantage pour la transmission entre générations, faire des enfants robustes et sains, disait le chanteur Schepfer, de la vaccination. Et donc, l'obligation est instaurée peu à peu, à partir du début du XXe siècle, et elle demeure aujourd'hui pour les enfants, ou du moins les nourrissons.
L'obligation a beaucoup régressé. L'obligation a beaucoup régressé, en particulier à propos du BCG. Il y a eu un long débat. On a commencé à parler de l'abandon de l'obligation à propos du BCG en 2003 et finalement, elle a été annoncée définitivement en 2008. Et il avait été question à un moment donné de faire un tri pour l'obligation, réservant l'obligation aux enfants nés de parents étrangers. Vous pouvez imaginer comment cette mesure aurait suscité des réticences politique bien compréhensible.
J'aime bien quand vous contrôlez votre langage, ce que vous faites depuis le début de cette émission. Pourquoi y a-t-il des pays où il n'y a pas d'obligation en Europe ? L'Allemagne, dont vous parliez tout à l'heure, l'Espagne, les pays nordiques ?
Historiquement, dans la plupart des pays, il y a eu des périodes d'obligation. Mais c'est vrai que très souvent, elle a disparu, par exemple en Angleterre, ou même en pleine guerre. Les autorités britanniques refusaient de rendre les vaccins obligatoires en disant, je cite, que le soldat britannique doit rester libre de son corps au moment où il s'engage dans la bataille.
Il y a aussi, pour expliquer le recul de l'obligation, des allers-retours maladroits de la puissance publique. On ne va pas parler de l'affaire H1N1, c'était en 2009. On se souvient peut-être d'une affaire plus ancienne, celle de la généralisation de la vaccination contre l'hépatite B, lancée par M. Douste-Blazy en 94 en milieu scolaire, élargie ensuite par le secrétaire d'État Bernard Kouchner. Au printemps 98, Bernard Kouchner fait encore preuve d'une belle assurance quant à la généralisation de ce vaccin, puis on va entendre dans un second temps, nous serons à l'automne 98, et bien qu'il a reculé.
Lors de la deuxième vague de vaccination en 95, chez quelques dizaines d'adolescents, l'injection d'un vaccin entraîne quelques effets secondaires un peu plus fréquents que d'habitude, nausées, maux de tête et douleurs au point d'injection. Des effets qui disparaissent en quelques heures et qui n'auront aucune conséquence. Utilisé sans problème aux États-Unis et aussi dans toute l'Union européenne, à l'exception de la Belgique et de l'Espagne, le vaccin est examiné de près. Conclusion, aucune anomalie. Il n'y a en particulier aucun surdosage du principe actif. Ce matin, Bernard Kouchner n'hésitait pas à désigner ceux qui, selon lui, avaient tout intérêt à monter cet événement en épingle.
Il y a là une manifestation parfois sectaire, je pèse mes mots, parfois sectaire, qui vient parfois d'un ensemble de sectes contre la vaccination, mais par ailleurs, je comprends que les parents soient inquiets lorsque des incidents comme cela se développent. C'est pourquoi nous intervenons. Ce sont des incidents mineurs, mais nous les prenons très au sérieux.
Un vaccin en quarantaine, la campagne pour l'hépatite B est suspendue. 7 millions de collégiens ont déjà été vaccinés, mais le doute vis-à-vis de ce vaccin n'a jamais été levé.
Ma conviction est la même, c'est un vaccin où le bénéfice l'emporte absolument sur un risque potentiel qui n'a pas été prouvé. Il n'empêche que parce que l'alarme a été grande, parce qu'on doit toujours parler, parce qu'on doit toujours informer, parce que la médecine c'est ça, c'est de rétablir la confiance. Nous nous efforçons de la rétablir, mais la vaccination n'est pas remise en cause.
Donc c'est le même ministre, c'est le même journal télévisé, à 6 mois de distance quand même. On a changé de pied, puisque Bernard Kouchner a suspendu le programme de vaccination des enfants en classe de 6e, tout en maintenant celle des nourrissons. Je parle de la vaccination contre l'hépatite B. Il faut bien choisir sa cible, Anne-Marie Moulin. Il ne faut pas trop l'élargir. Il ne faut peut-être pas non plus, quand on est puissance publique, avancer trop seul dans ce domaine maintenant.
Vous faites allusion au grand débat qui va commencer et qui va durer une année à propos de la politique vaccinale. Mais ce que je voulais dire, c'est que en matière d'effets secondaires, c'est quelque chose à l'égard desquels la société a évolué. Je pense que du temps des grandes campagnes de masse, quand la diphtérie était une vraie catastrophe dans les familles, etc., on ne faisait pas très attention aux dégâts collatéraux. Il y avait peut-être des accidents ou des incidents qui passaient inaperçus. Aujourd'hui, nous sommes dans une société différente. Les individus veulent être protégés personnellement. Or, ils peuvent découvrir dans l'immunologie moderne, dans la science médicale d'aujourd'hui, des arguments pour quelques réserves. Il est clair que le système immunitaire de chacun est unique, à exemplaire unique. Par conséquent, il ne peut jamais être exclu qu'il y ait des réactions que l'on appelle savamment auto-immunes, c'est-à-dire de stimulation du système immunitaire qui se retourne contre les composants de l'organisme. Ça n'est pas exclu. Il n'est pas exclu non plus que le vaccin ne protège pas à 100%. Et c'est là une chose qui va évidemment contre l'expérience historique. C'est l'arme absolue. À partir du moment où on commence à émettre quelques réticences ou quelques, on s'aperçoit que l'on bascule aisément. Le vaccin est un colosse, mais un colosse au pied d'argile. Si on le critique, il pourrait vaciller. Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Si les processus d'individuation vont très loin, chacun pesant le pour et le contre, l'effet positif de la vaccination qui tient à son caractère collectif, pratiquement, elle doit toucher la population dans sa totalité, va décroître aussi.
Oui, et la question aussi, qui est une question éminemment politique, c'est de savoir si les Français sont prêts à considérer avant tout l'intérêt collectif, la santé publique, éventuellement au prix de quelques bavures, défaillances de l'immunité de certains. Et la réponse est visiblement en suspens. Est-ce que ce qu'envisagent la plupart des gens, c'est au fond, ce qui serait très bien, c'est que tout le monde soit vacciné, sauf moi.
Il faut quand même mettre en avant une question importante qui est portée par beaucoup des détracteurs de la vaccination. La vaccination, avant, ça ne coûtait pas cher. La vaccination, avant, était faite avec des produits de l'Institut Pasteur, en qui on a une confiance totale depuis toujours. La vaccination, maintenant, est portée par des firmes de moins en moins nombreuses et leurs vaccins sont souvent de plus en plus coûteux.
Alors, du temps de Pasteur, on ne parlait pas encore de bien public, mais il s'agissait un peu de cela. Que le vaccin soit coûteux ou pas, l'idée était forte, que le vaccin devait être quelque chose de gratuit à la disposition de la population, la vaccination vétérinaire posant de tout autre problème. Pendant très longtemps, au fond, ce sont les institutions scientifiques, les institutions de recherche qui produisaient les vaccins et qui étaient donc supposées garantes de leur efficacité et de leur innocuité. Et puis, très rapidement, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont assumé la production en masse des vaccins. Elles étaient les seules à pouvoir disposer des équipements coûteux qui permettent de suivre les standards exigeants de l'Union européenne, par exemple. Mais il est évident que le soupçon de corruption ou le soupçon d'intérêt particulier est forcément attaché à une activité qui est, par nature, commerciale.
Mais la ministre de la Santé dit « c'est quand même bien embêtant, on manque de stocks de vieux vaccins trivalents, enfin les vaccins qui portent sur les maladies contre lesquelles il est obligatoire de se vacciner, et on a des vaccins polyvalents, on a des vaccins hexavalents maintenant, et du coup on est obligé de se vacciner contre plusieurs maladies ».
C'est un des éléments qui est derrière cette question de l'obligation. Effectivement, là, il y a eu, je pense, une erreur. Les vaccins ne comportant que les valences obligatoires, comme on dit, ne sont plus aisément disponibles. Et on a donc le choix pour les parents entre le vaccin hexavalent ou le refus qui pourrait les amener, au fond, à apparaître au banc des accusés, puisqu'ils ne protègent pas leurs enfants contre des maladies dangereuses.
Merci à vous, Anne-Marie Moulin. C'était notre contribution, la consultation citoyenne sur les vaccins. À la technique Dimitri Gronoff, la réalisation aujourd'hui, Stéphane Ronxin, Ninka Negulesco, Frédéric Martin, Clara Garzone, Franck Olivard, dans notre équipe. On n'a pas parlé du moustique Zika. Si on éradique les moustiques, qu'on met en cause, Mathieu Vidard, la biodiversité.
Ah ben, ce serait très embêtant, effectivement, mais on va parler de cette biodiversité en crise, Jean. Elle n'a jamais été autant en crise dans l'histoire humaine.
Philosophie de la biodiversité. Nous allons encore rester perplexes après 14h, car il est 14h.